Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Salut Edouard, c'est Mathieu. Bah écoute, j'espère que tu vas bien. Je te fais ce message pour te confirmer notre Alternative Football avec Mathieu Zagrodzki tout à l'heure. Tu sais, je t'avais parlé de lui. Il est chercheur en sciences politiques spécialisé dans la police. Et il est également membre de la commission stade de la LFP. On va parler avec lui du retour au stade, de comment le Covid a peut-être changé pour toujours notre expérience dans les enceintes. Et on va bien sûr parler des ultras, aussi de la tech, etc. Donc voilà, j'ai hâte d'y être et je te dis rendez-vous au studio tout à l'heure. Ciao.
Alternative Football. Alternative Football. Alternative Football.
Beaucoup en parlent.
On parlera de l'effectif, de la gestion de l'effectif.
Comment ils jouent les deux contre les gars.
Mais peu le connaissent vraiment.
Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
Alternative Football. Le podcast hors terrain de SoFoot, présenté par Édouard Cissé et Mathieu Lille Palette.
Bonjour à tous, bienvenue sur ce dernier épisode de la saison d'Alternative Football, non sans émotion.
Déjà.
Que je suis avec mon compère, monsieur Cissé.
Salut Mathieu.
Comment vas-tu?
Mathieu.
Oui, avec les deux T.
Voilà.
Tu fais bien de le préciser parce qu'on reçoit un Mathieu.
Mathieu.
Un T. Mathieu Zagrodzki aujourd'hui.
Salut. Ravi d'être parmi vous.
Alternative Football.
On va donc introduire le sujet avec notre traditionnelle question d'ouverture. Covid, sécurité, fan expérience. Va-t-on vraiment retourner au vrai stade un jour?
Alors Mathieu,
messieurs, vous avez 2 heures.
C'est toujours ça, hein, c'est des sujets comme ça, deux heures.
Je précise que c'était pas du tout préparé, que j'étais pas au courant que j'allais avoir une question aussi vaste d'emblée.
Non, sinon c'est pas.
Oui,
c'est pas
on va revenir au vrai stade tôt ou tard. Ouais.
Bon, bah, c'est bon. Du coup,
c'était super sympa.
Pas la semaine prochaine, parce que c'est la fin de saison, mais à la saison prochaine.
Bah, content d'avoir traversé Paris pour ça. Ouais.
Non, mais blague à part, effectivement, l'idée, c'est de comprendre, après ce qu'on vient de vivre, notamment 2 ans de Covid, ça veut dire 2 ans plus ou moins de stade vide. Ça pose la question de ce fameux retour au stade, mais ça pose aussi d'autres questions sur la compréhension de ce que devient le stade, de tout ce qui est lié au support. À la sécurité autour du stade, mais également de tout ce qu'il y a à la fan expérience. Pour commencer à préciser, j'ai d'abord envie de te parler du Covid. Le Covid, ça a quel impact pour les clubs au niveau de leur gestion du stade et de ce fameux retour au stade qui arrive? Et tu vas peut-être là pouvoir nous dire pourquoi tu es pertinent pour parler notamment du retour au stade.
Alors, encore une fois, vaste question, pourquoi je suis pertinent pour parler de ça? Bon, pour 2 raisons, la première c'est que mon métier, c'est de faire de la science politique et d'être spécialisé dans les questions de sécurité intérieure, et les relations police-supporters font partie des choses sur lesquelles j'ai travaillé, et ce qui m'a valu par ailleurs de rejoindre au mois de janvier la commission expérience stade de la Ligue de football professionnel, où ces sujets, entre autres, hein, sont évidemment discutés. Alors, bien évidemment, je ne révélerai rien de secret ici. De toute façon, je sais que c'est pas l'objet du tout du podcast. Alors, en quoi ça a touché les clubs et ça les touche encore? Bah, il y a une raison qui est évidente. C'est l'absence de billetterie pendant une saison et demie, auquel il faut ajouter quand même, problème auquel il faut ajouter la crise des droits TV, hein, qui est encore un autre sujet. Mais pas de billetterie, pas d'hospitalité, pas de vente, de merchandising, de bière, de café, de sandwich. Donc, tout ça, ce sont, alors, en fonction des clubs, la part varie. Un club comme Nîmes, par exemple, exemple, il était dépendant à 70% des droits TV. Donc la part de la billetterie est beaucoup plus faible. PSG, dans mon souvenir, ça doit être que 10%.
Quelque chose comme ça
pour les droits TV. Donc tout le reste, c'est justement du merchandising et puis notamment de la billetterie. Et en ce moment, il y a un autre enjeu qui est double, qui est celui du protocole sanitaire de retour au stade. Qui est encore quelque chose qui est en train d'être discuté, mis en place. Et c'est aussi la gestion des regroupements festifs qui vont avoir lieu inévitablement autour des stades et dans les stades, quand ceux-ci vont rouvrir. Donc, non pas qu'il y ait un danger ou quoi que ce soit, mais on sait qu'en France, on a des législations qui sont restrictives sur un certain nombre de choses, notamment les fumigènes, par exemple. Et ça, pour les directeurs de sécurité de stade, pour les autorités publiques, ça va être une question à régler, comment on gère ce flux de personnes festives à l'extérieur des stades qui vont vouloir célébrer ce retour dans les gradins.
Et toi, t'as déjà une piste de réponse ?
J'ai pas de piste de réponse à titre personnel, parce que de toute façon je suis pas décisionnaire, donc j'ai pas forcément ma voix au chapitre dans la gestion interne des clubs et dans la gestion de la sécurité des stades. Je pense que personnellement, je suis plutôt optimiste. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, les gens, ils vont revenir. Oui, il va y avoir des fumigènes craqués. Oui, il va y avoir des cortèges. En fait, ça, c'est un truc qu'on va sans doute observer. C'est les cortèges ultra pour se rendre au stade. Au final, il faut un encadrement policier qui soit à la fois suffisant, mais pas trop, qui mette pas trop la pression sur les supporters, dans le sens où si on se maintient à distance et qu'on établit un certain règle avec les responsables ultra, il y aura pas de problème. Et ce qui me permet d'introduire un autre sujet dont on discutera sans doute, voire dont on peut discuter aujourd'hui, c'est que au moment où on se parle, le dialogue entre les clubs, les autorités publiques et les supporters, c'est quand même grandement amélioré ces dernières années. Il y a un progrès spectaculaire en fait dans les instances de dialogue impliquant les supporters.
Alternative football.
Ça veut dire que la France, aujourd'hui, dans les mesures qui sont prises pour améliorer l'expérience dans le stade au niveau de la sécurité, en tout cas, et notamment quand on est à l'extérieur, est-ce que la France est considérée comme innovante ? Est-ce qu'on fait partie des pays qui sont moteurs sur ces sujets-là ? Ou est-ce que tu as des éléments de comparaison pour nous situer par rapport notamment à nos voisins européens ?
Oui, bien sûr. On a plutôt été à la traîne pendant longtemps.
D'accord.
Les pays innovants, c'est l'Allemagne, par exemple. C'est la Suède.
Encore eux.
Et en fait, ce dispositif de policiers référents, ces instances de dialogue, c'est quand même largement calqué sur ce qui se fait en Allemagne. Et encore une fois, la fondation Nivelle est à la base une fondation allemande. Et c'est un peu elle qui a poussé ça. Même si il n'y a pas que la fondation Nivelle, les pouvoirs publics s'y sont mis, les clubs s'y sont mis. Bon, il y a eu un tournant en fait qui s'est opéré en 2016. Pour plusieurs raisons. Déjà, c'est qu'il y a une loi qui a été votée au printemps qui a justement instauré cette obligation d'avoir un référent supporter dans chaque club, qui a créé une instance nationale du supporterisme. Donc, il y a cette réunion qui rassemble le ministère des Sports, les représentants des clubs, les représentants des pouvoirs publics. On discute de sujets comme la pyrotechnie, comme les tribunes debout, également les problèmes de discrimination et de violence dans les stades. Donc, c'est une espèce d'arène qui permet de débattre. Il y a le retour des ultras au parc aussi, qui a été un peu un tournant, parce que jusqu'ici, on était dans une approche qui était avant tout répressive en fait en France. C'est-à-dire que t'as la mise en place de l'interdiction judiciaire de stade en 93, la création de l'interdiction administrative de stade en 2006, la création de la division nationale anti-hooliganisme en 2009. Donc tout ça, on était plutôt quand même dans une approche où, si je schématise, le supporter est quelqu'un de dangereux qu'il faut contenir. Et avec une représentation réciproque aussi hein, chez les supporters, c'est que la police, les mesures de sécurité, tout ça, c'est fait uniquement pour persécuter les ultras. Et donc, à partir de 2016, il y a eu ce rapprochement. Et pourquoi je parle du retour des ultras du PSG, c'est que à la fois les pouvoirs publics et le club ont fait un pas ce que moi j'estime être la bonne direction. Mais aussi, les ultras se sont responsabilisés. C'est que le collectif Ultra Paris participe au dialogue, échange régulièrement avec le club et les autorités, a des porte-parole qui sont identifiés. Et c'est un peu là où je veux en venir. C'est que il y a une structuration de ce dialogue avec des représentants bien identifiés de part et d'autre, qui se connaissent et qui ont l'habitude, en fait, maintenant d'échanger. D'accord. Donc, on était, j'ai envie de dire, en retard. Aujourd'hui, on est dans une dynamique qui est extrêmement positive. Et dernier petit point, et je termine mon monologue, c'est que, pour vous dire, la Ligue de football professionnel a créé un poste de, justement, de chargé de mission supporterisme. Donc, il y a une personne à plein temps qui s'occupe de ces questions-là à l'AFP, ce qui était impensable, mettons, il y a une décennie.
Ouais. Ouais. Parce que t'as soulevé un truc tout à l'heure, en off. Et j'avais jamais pensé à ça, tu vois. Pour moi, les supporters, c'était les supporters. Et tu m'as dit qu'il y avait plusieurs publics. Donc, il y a plusieurs types de supporters. Et le problème des ultras, que je me disais, enfin, je le traitais, enfin, j'avais du mal à l'appréhender. À partir du moment où on autorise tous les publics supporters excepté les ultras, c'est une forme de discrimination. Et je commence à comprendre pourquoi les ultras, tu vois, et à chaque fois, quand on en voyait certains, « Ouais, Edouard, tu pourrais dire un truc sur, tu vois, sur notre condition, c'est pas top et top. » Moi, honnêtement, je disais que bon, vous abusez un peu quand même. Et tu m'as mis t'as mis ça en lumière et effectivement, ça fait sens. C'était une forme de discrimination, quoi.
Ah, complètement. C'est-à-dire que t'as plusieurs typologies de fans. Le rôle du club et des instances, c'est de les servir, je vais y arriver, tous.
Ouais.
Après, je pense que la prérogative principale, c'est la sécurité de tout le monde et comment on fait en sorte que ça cohabite. Mais du coup, ça m'amène une question pour toi, Edouard, sur ce que Mathieu évoquait. Et tu nous as parlé notamment de sécurité de référence, etc. Edouard, tu as joué dans des clubs qui ont des fans qui sont assez présents, tu as joué dans des pays où le supporterisme veut dire quelque chose.
Oui.
Je vais te poser une question un peu directe. Est-ce que tu as déjà eu peur dans un stade, toi, en tant que joueur?
J'en parlais tout à l'heure. Pas peur, mais je dois t'avouer qu'il y a une période au parc, quand tu arrivais au parc et tu voyais à côté de Jean Boin des quarts de CRS pour un match de foot. Waouh!
Ouais.
Et autant de CRS, là tu dis c'est bizarre quoi, t'as vraiment l'impression parfois d'aller à la guerre. Et inconsciemment, il y a certains gars certains joueurs qui me disaient mais si on perd, qu'est-ce qui se passe? Déjà tu sens que c'est pas un petit match, tu vois, un peu sympatoche.
Donc c'était perceptible par l'équipe.
T'arrives au parc, tu vois les gars de CRS, ils sont déjà là, hein. Ils sont déjà en équipe, enfin ils sont déjà équipés, tu vois, deux trois bus. Donc c'est pas évident. Après à l'étranger, non, la Turquie c'était relativement bien amené. Et puis il y a eu un match oui particulier, PSG Galatasaray. Voilà, tu pourras en parler peut-être.
J'étais
pas été top. Ils avaient mis des supporters turcs un petit peu partout. Enfin c'était la gabegie. Et bon, nous on n'a pas été vraiment en danger. Enfin on sait pas. Enfin moi peut-être j'étais insouciant. Je me suis pas senti en danger. C'était en 2001, je crois.
Parce que le match a été arrêté quand même.
Il a été arrêté. Voilà, moi j'étais content sur le match. J'ai pas senti là. Ouais. Mais ouais, c'était pas à refaire quoi, je crois.
Alors c'est intéressant que tu parles de ça parce que du coup moi j'étais en tribune. Apparemment toi aussi Mathieu.
Pareil.
Corrige-moi si je me trompe, mais je pense que le problème qu'il y avait eu à l'époque, c'est que de toute façon, il y avait une partie des billets qui était disponible à la vente générale, et c'est simplement qu'il y a une communauté turque importante à Paris qui avait pu avoir accès aux billets. J'imagine qu'aujourd'hui, un club comme le PSG, d'ailleurs tous les clubs, ils ont des outils qui permettent de contrôler ce type de choses. C'est-à-dire que tu sais que t'as des équipes dans certains pays qui vont avoir un fort contingent de supporters, donc en tant que club, aujourd'hui, j'ai la capacité de mieux gérer ma vente générale.
Ouais, disons, alors tu peux pas discriminer sur un critère, évidemment, de « Ah tiens, c'est un patronyme turc, donc je lui vends pas », mais tu peux par exemple créer un système où tu ne vends qu'aux abonnés, et les abonnés peuvent acheter 4 places qu'ils peuvent distribuer, enfin, ou revendre à leurs amis. Tu peux mettre un système de carte de fidélité ou d'adhésion, même gratuite, en fait, au club PSG, qui fait que seuls les membres de ce club PSG peuvent acheter des places. Ça, c'est une première chose, c'est que oui, tu peux, commercialement parlant, sans violer la loi et sans évidemment instaurer de discrimination, puisque tu employais ce terme à l'instant, à l'égard de supporters de telle ou telle origine, un peu contrôler à qui tu distribues les billets. Il y a un deuxième point, hein, sur les incidents de PSG Galatasaray. Sachant que ça avait déjà merdé en 96, il y avait déjà eu un antécédent, et ça avait, j'étais également à celui de 96-97, où c'était chaud aussi, pas autant qu'en 2001, mais quand même. L'autre problème en 2001, c'est que en fait, beaucoup de supporters, côté Auteuil comme côté Boulogne, arrivent à faire le tour du stade en passant par les coursives, avec des complicités évidentes.
Bien sûr.
Des stadiers, ça se produirait pas aujourd'hui.
Ouais.
Aujourd'hui, et puis le stade a été rénové, il y a quand même des séparations beaucoup, beaucoup plus nettes entre les tribunes, notamment, entre les, enfin avec le secteur visiteur, qui fait que ça se serait produit quand même beaucoup plus difficilement aujourd'hui. Je dis pas que c'est complètement impossible, mais il y a, les choses ont évolué. C'est à, bah, c'est à 20 ans maintenant, hein, quand on y pense, le temps file.
On est vieux,
ouais.
Alternative Football.
Sans tomber dans l'écueil de parler que du PSG ou du Parc, même si on a autour de la table des gens qui sont plus ou moins directement concernés, on a quand même l'impression qu'en termes de sécurité et de supporterisme ou de sécurité dans les stades, le cas pratique, si tu veux, qui génère la réflexion, c'est quand même souvent le Parc.
Oui, complètement.
Et ça, c'est reconnu parmi les experts du sujet en France, c'est-à-dire que tu retrouves ça dans...
Bah, de toute façon, c'est le club... Hein, pour encore une fois rebondir sur ce que disait Edouard à l'instant sur finalement les ultras, ils sont un peu discriminés, ciblés. Les ultras parisiens ont fait l'objet de contraintes sans aucune comparaison avec les autres clubs en France. C'est-à-dire qu'il faut quand même s'imaginer que il y a eu des milliers d'ultras qui n'ont pas pu se réabonner. J'en fais partie.
On est deux.
On est deux.
Vous étiez des ultras ?
J'ai jamais été écarté dans un groupe de supporters. Donc j'étais plus ce qu'on appelle un lambda, c'est-à-dire que tu es effectivement en virage, mais tu viens et tu fais ta vie.
Ouais, c'est ça.
Mais comme j'étais abonné, donc pour le coup, tu es en virage, effectivement, pour les gens comme moi, qui avaient notamment rien à voir avec ce qui s'était passé, et en tout cas le décès de
Yann
Laurence, qui avait amené au plan Le Prou, c'était extrêmement violent et discriminatoire, c'est-à-dire que tu payes. Alors on pourra revenir après sur quelles étaient les solutions alternatives et potentielles. Mais c'est vrai que ça a été...
Ouais, ça a été violent. Enfin, je veux dire, moi, personnellement, ça faisait 16 ans que je fréquentais un virage au Parc. Et tout d'un coup, on me dit, en fait, tu peux plus t'y abonner. En plus, à l'époque, il ne faut pas oublier qu'on avait fait des tribunes... On avait, à Auteuil comme à Boulogne, sur les parties hautes, on avait fait des tribunes enfants. C'est les tribunes famille. Donc, en fait, on avait complètement cassé cette logique. Donc, c'est là où on allait le plus loin. C'est aussi là, parce que c'est là que la violence est allée le plus loin. Il faut aussi le rappeler, c'est qu'il y avait quand même ce conflit interne extrêmement violent entre Auteuil et Boulogne, hein, qui remonte à 2003, hein, qui a été latent pendant plusieurs années et qui éclate en fait à cette période. Et aussi, encore une fois, pour rebondir sur ce que disait Edouard, c'est une discussion qu'on a eue en off avant la prise d'antenne. Je me souviens d'un PSG-OM, ça devait être la saison 2002-2003, où il y a 2000 effectifs des forces de l'ordre qui sont déployés autour du Parc des Princes. Ouais. C'est complètement délirant. C'est vrai que c'était un état de siège.
Non, ça rejoint ce que tu disais. De nos jours, ils sont combien ?
Aujourd'hui, ils doivent être 400, 500 sur un match.
Juste pour voir
un match. Pour avoir une échelle de comparaison. Mais 2000, c'est absolument énorme. 2000, c'est gigantesque. Et je me souviens très bien que c'est l'avenue du commandant Guilbeault, où il y avait littéralement en fait, un cordon de CRS de part et d'autre de la rue qui longeait en fait.
C'est l'image qu'on avait.
Voilà, qui longeait l'arrivée au stade.
Avant un match.
Ça, on en est quand même sorti. Et oui, c'est pour ça que le Parc, c'est un laboratoire, parce que c'est là que c'était le plus violent, parce que c'est là qu'il y avait des rivalités internes au club. Et c'est parce que c'est là aussi qu'on a poussé, du coup, les mesures répressives le plus loin, avec des restrictions de liberté. Enfin, on a quand même eu des trucs du type des arrêtés préfectoraux. On disait pas le droit d'aller, en Moselle, pour toute personne se prévalant du titre de supporter du PSG. Enfin bon, on a quand même eu des trucs absolument ahurissants du point de vue des libertés publiques.
Ouais. C'est
très noir pour l'instant. On voit la chape de plomb quand même. Hein. Là, on a vraiment l'impression que le stade est égal une arène. Moi, je l'ai vécu en tant que joueur, c'est-à-dire que une chape de plomb, c'est-à-dire que c'est loin du divertissement. Donc, je vous laisse finir, mais après, il va falloir changer de le stade égal aussi Disneyland peut-être.
Non mais plaisir. Justement,
Samba. Joga Bonito.
Je pense qu'on va faire des allers-retours entre ces différentes. Et puis c'est ce qui nous anime, hein, c'est de comprendre si le supporter de demain il va encore au stade pour supporter une équipe de foot ou est-ce qu'effectivement il va à Disneyland et c'est une expérience à l'américaine. On va vite arriver sur
absolument.
Ça. Mais ma question c'est que tu nous as parlé donc des différentes mesures qui ont notamment été mises en place au PSG ou les essais que fait la Ligue aujourd'hui avec le référent, le policier qui est référent supporter. Les exemples de gestion de la sécurité dans les stades dans l'histoire qui ont précédé la France, je pense à l'Angleterre et la Première Ligue qui a nettoyé ces stades, on a l'impression qu'ils étaient effectivement avant tout répressifs. Est-ce que tu confirmes que la manière dont la première ligue à gérer ça, c'était effectivement avec les pouvoirs publics de faire en sorte que bah, si tu rentres sur le terrain, c'est de la prison. Ou est-ce qu'il y avait cette notion de dialogue dont tu as parlé et qui me semble être plutôt une méthode qui est un peu plus constructive. Est-ce que ça a été expérimenté aussi en Angleterre à cette époque-là? Là, on parle des années 90, hein, la première ligue c'est 1992. Ou est-ce que pendant longtemps la croyance a été c'est du répressif, c'est comme ça qu'on contrôlera les gens, et donc ce courant d'ouvrir le dialogue c'est beaucoup plus neuf.
Ouais. Pour un peu schématiser et simplifier le débat, on oppose un peu le modèle anglais au modèle allemand. Le modèle allemand, c'est finalement celui qu'on essaie de suivre, qui est le maintien de tribunes populaires et la mise en place en fait d'un dialogue entre les supporters, les clubs et les pouvoirs publics. Donc ça, c'est ce modèle qui est aussi en vigueur, en Scandinavie par exemple. Hein, les Suédois l'appliquent aussi. Le modèle anglais, il est différent parce que au fond, le sécuritaire et le commercial ont marché main dans la main. Oui, il y a eu un tournant répressif très clair au milieu des années 80, aussi, encore une fois, parce que la situation en Angleterre était absolument dramatique. Hein, je veux dire, alors, on a tendance aujourd'hui à dire « Ah, c'est horrible, le thatcherisme, ouais. La répression et tout ça. » Il y a quand même des morts dans les stades. Il y a le Hesel qui a marqué durablement quand même les esprits. Donc oui, les dispositifs de fichage et d'interdiction de stade, il démarre en Grande-Bretagne. La loi qui instaure ça doit remonter à 1986 de mémoire. D'accord. À vérifier, mais je suis à peu près certain de mon coup. On commence en fait à ficher les supporters qui ont commis des exactions dans les stades et à leur dire vous êtes interdit de, vous n'avez plus le droit de mettre les pieds dans un stade pour telle durée. Et le commercial, c'est que ben on a pris un tournant business complet en rénovant totalement les stades. Voire même pas en les rénovant, en détruisant, en abandonnant les anciens stades et en construisant de nouveaux, avec des politiques tarifaires qui s'adressent très clairement à une clientèle business ou internationale.
C'est une sélection par l'argent. Hein.
C'est une sélection par l'argent. Alors c'est pas pour dire que les hooligans sont tous pauvres ou que les pauvres sont par définition, ou les classes populaires sont par définition dangereuses. Après, dans la sociologie du supporterisme britannique, il y a quand même une corrélation entre les classes populaires, les classes pop, ouvriers. Qui vont voir le foot et qui vont se défouler en fait le week-end et qui pour certains s'en mettaient sur la tête parce qu'on défend l'honneur de son quartier, de sa ville. Oui. Et de toute façon, les clubs en Angleterre se sont beaucoup construits autour de ça. Ils sont construits autour du pub.
C'est historique, exactement. C'est historique, le pub.
T'as une notion de territorialité.
T'as une notion de territorialité qui est très forte et ça se bâtit autour de ton usine, de ton pub, de ta paroisse. Enfin, il y a un truc très très fort comme ça. Et ce qui fait que aussi par la rénovation des infrastructures. Et le contrôle d'accès, la vidéosurveillance, enfin tout un tas de dispositifs de ce qu'on appelle dans le jargon de prévention situationnelle, donc en substance d'obstacles physiques et de protection physique contre la violence, la création de secteurs visiteurs, hein, par exemple très étanches en fait par rapport à ce du stade, c'est ça qui a largement pacifié les stades de première ligue. Mais au détriment de l'ambiance d'une certaine culture. Alors, à quelques exceptions près, Crystal Palace a une bonne ambiance. Enfin, il y a des. Puis, dans les divisions inférieures, il y a encore des stades où il y a une âme. Mais c'est vrai qu'il y a certains clubs où cette âme, elle a un petit peu disparu parce que on est à des abonnements qui peuvent être à 1000 livres minimum.
Oui, c'est minimum. Hein.
Minimum, hein, voilà. Dans le club Arsenal, le moins cher, ouais. En virage, là où ça peut monter à des milliers et des milliers dans d'autres stades londoniens notamment.
Ouais. Venons-en à cette question de Disneyland, qui est un des autres grands thèmes qu'on souhaitait aborder. Donc Disneyland, on schématise grandement ce qu'on va appeler la fan expérience, qui est un sujet que tu maîtrises plutôt aussi bien pour d'autres raisons. Est-ce que la fan expérience et l'américanisation des stades en Europe, est-ce qu'elle est inévitable?
Pas au même degré qu'aux États-Unis. Alors, est-ce que je suis censé dire pourquoi je m'y connais en fan expérience?
Absolument, vas-y.
Parce que, de manière annexe, donc j'ai dit qu'elle était mon métier principal, c'est de faire de la recherche et du conseil en sciences politiques. Mais accessoirement, je représente en Europe une société qui s'appelle The Famous Group. Bon, qui n'est pas si famous que ça en Europe,
mais qui est très famous
aux États-Unis parce que c'est la société qui a par exemple fait la cérémonie d'ouverture du Super Bowl, donc pas le dernier, mais le précédent qui a eu lieu à Miami entre les 49ers et les Kansas City Chiefs, et qui est un peu le fournisseur de divertissement dans les stades d'une une petite cinquantaine d'équipes professionnelles aux États-Unis, comme les Boston Celtics, comme Golden State Warriors, comme Dallas Cowboys. Bon, bref, enfin, on a un nombre de clients assez important en Amérique du Nord. Et bon, là, l'entreprise cherche à se développer en Europe et à nouer des partenariats en Europe. Et bon, j'essaie d'y contribuer à mon niveau en représentant, en étant le représentant sur ce continent de cette marque. Et alors, ta question, c'est est-ce que l'américanisation est inévitable ? Bah, je vais te raconter une anecdote intéressante. C'est que j'ai été recruté parce qu'ils savent que la culture sportive n'est pas la même en Europe. Ils voulaient un Européen, et mieux, ils voulaient un Européen. Moi, je viens pas du tout du monde du business, je n'ai pas fait d'école de commerce, je n'ai aucune notion de marketing. Ils voulaient un fan de foot, quelqu'un qui comprenne en fait la culture des supporters, parce qu'ils savent qu'il y a des choses qu'on peut pas transposer, qu'on ne doit pas transposer. Déjà, le rythme des matchs est complètement différent aux États-Unis. Un match de basket, un match de foot américain, t'as tout le temps des temps morts, et il faut occuper... Ouais. Il faut occuper les gens pendant ce temps.
C'est long aussi. Hein.
C'est très long. Tu restes 3 heures, 4 ouais. heures. Baseball, tu sais même pas quand tu vas sortir. Ouais. Foot américain, t'en as pour 3h30, ouais, à peu près.
C'est long.
Basket aussi, c'est dans les 3 heures. C'est toi qui es plus fan de basket ou je me trompe,
ça dépend
Mathieu. C'est long. Et puis, eux, ils y voient aussi une opportunité de monétisation. T'as un temps mort, bah tu peux faire un petit truc sponsorisé.
Une kiss cam, un truc à gagner.
Un concours, voter pour le meilleur joueur et c'est sponsorisé par telle marque. Bon, en fait, tous ces petits interstices, ils sont une opportunité pour faire de l'argent. C'est la création de valeur. Et ce que je dis toujours, et ça c'est une discussion que j'ai souvent eue avec des gens dans la ligue, dans des clubs, c'est que aujourd'hui, à la mi-temps, ou avant le match, mais surtout, moi je prends toujours l'exemple de la mi-temps. À la mi-temps, les clubs, les organisateurs des événements, ils ont plusieurs concurrents, que sont YouTube, TikTok, Twitter, Insta, l'équipe.fr. Tu regardes autour de toi à la mi-temps d'un match, tout le monde est sur le téléphone. Tu n'arrives plus à attirer les gens avec une pub classique, la pub pour la bagnole avec la Peugeot, je sais pas combien, qui roule au milieu du Grand Canyon. Les gens ne regardent plus ça, ils s'en fichent. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est qu'est-ce que tu fais pour garder l'attention des spectateurs à la mi-temps et, accessoirement, comment tu peux éventuellement le monétiser. Parce que faut pas être hypocrite. Les clubs, notamment dans le contexte d'aujourd'hui où les droits TV sont en baisse, où on sort d'une crise d'un an et demi, bah, ils ont besoin de trouver d'autres leviers de revenus.
Ouais. Non, mais tu parlais tout à l'heure de diversification. On est dedans. On a fait un autre épisode sur d'autres sujets. On parlait pas nécessairement du stade, mais de la nécessité pour les clubs de diversifier les revenus. Mais le challenge, il est là. Et je pense que la barrière culturelle, c'est la suivante. C'est qu'aux États-Unis, effectivement, le match, c'est une expérience sociale. C'est-à-dire que tu arrives longtemps avant. Il y a beaucoup de pauses entre les phases de jeu pour que tu crées du lien social, que tu ailles aussi consommer, parce que c'est culturellement comme ça que se construit, et tu restes aussi longtemps après. En France et en Europe de manière générale, tu viens consommer du sport. Donc tu arrives avant le match.
Bah, t'as déjà consommé parce que t'as déjà payé ton ticket.
Ouais,
exactement. C'est déjà beaucoup.
C'est ça.
Exactement.
Mais c'est juste ça, quoi.
C'est ça. Et ton expérience au stade, elle est pour ça. Tu viens pas faire autre chose. Et c'est vrai que pendant des années, t'avais la mi-temps qui était utilisée pour le trophée Ouanadou, le trophée Orange. Edouard Cissé qui s'échauffe, par exemple, pour amener un petit peu de volume en deuxième. Et puis énorme, en même temps, t'as les gamins de la Sarcelles contre.
Bah écoute, mon frère l'a fait un match où tu étais là, donc c'est pour te dire, tu vois, ce lien très fort qui nous rapproche grâce au challenge Ouanadou. Pardon de t'avoir coupé, Mathieu.
Non, pas du tout, mais du coup, c'est je pense aujourd'hui dans les marchés comme la France, c'est le seul moment exploitable. Parce que j'ai beaucoup de mal à croire à titre personnel au fait que tu vas faire venir les gens beaucoup plus tôt au stade, à part les publics familiaux qui veulent effectivement prendre le temps de maquiller les enfants, etc., ce qui se voit de plus en plus, et tu les feras pas rester plus tard parce que c'est contre-culturel pour nous de faire ça. En revanche, cette mi-temps-là qui doit être exploitée, et je te rejoins complètement, le vrai problème que tu as aujourd'hui, c'est qu'il est occupé par des espaces hors stade. C'est-à-dire que mon réflexe à la mi-temps, moi, c'est de prendre le téléphone, d'aller sur WhatsApp, de parler avec les potes, de regarder en même temps ce que le club a posté sur Instagram et d'utiliser tout ça. Et puis, tu as un autre phénomène qui est aussi, alors peut-être plus européen que français, mais la grosse différence que tu as aussi avec l'expérience stade américaine, c'est qu'en France, les stades sont en dehors des villes. pour la plupart. C'est-à-dire que c'est hyper rare d'avoir un stade en centre-ville. Le parc, c'est d'ailleurs un des stades les plus centraux pour une ville.
Ouais,
et il est sur le périph. Donc, tu vois, il y a quand même plus central à Paris. Donc, par définition, t'as l'impression que, encore une fois, c'est absolument pas une critique, c'est plutôt un état des lieux de notre culture, c'est que le sport se vit en dehors de l'expérience de ville normale. C'est-à-dire que tu vas au stade, c'est un événement particulier, il faut t'organiser, il faut sortir de la ville, il faut y aller. Alors que les Américains, c'est beaucoup plus... Alors, ils ont aussi des sports qui s'y prêtent plus en termes de fréquence, c'est-à-dire que la fréquence de matchs de baseball et de matchs de basket, notamment, se prête moins au fait de faire des kilomètres pour aller consommer l'expérience. Mais l'expérience sociale et culturelle est complètement intégrée à l'expérience sportive aux États-Unis, et ça ne l'est pas ici. Et pour amener quand même une question à ça, c'est-à-dire The Famous Group, ou toute autre société qui propose de la fan experience dans les stades, est-ce qu'ils sont obligés d'adapter leurs produits, leurs technologies quand ils viennent en Europe? Du coup, c'est de simplement utiliser une parcelle de mes services que j'ai aux États-Unis et je vais les adresser en Europe. Parce que, est-ce que le fait de te prendre toi un Français, ça va jusque dans la conception des produits en disant non, il faut complètement réfléchir notre tech de manière différente?
Pas tellement. Ce que je veux dire par là, c'est que la tech, elle existe. Et elle est relativement flexible, que tu prennes de la réalité augmentée, que tu prennes une appli qui permet de faire de l'interaction sociale pendant les matchs, que tu prennes les fans virtuels. Donc c'est ce qu'on a vu dans un certain nombre de stades, c'est quand les fans qui regardent le match de chez eux sont affichés sur les écrans géants du stade pour qu'il y ait quand même une présence du public. Bon, tu vas... un peu adapter les choses en termes, je sais pas moi, de graphisme, de conception au public européen. Tu vas le proposer peut-être à des moments différents. T'as aussi la question des ayants droit. Je m'explique. Là, je viens de te parler de technique, enfin du dispositif de fan virtuel. Aux États-Unis, sur des matchs de basket, on peut proposer aux fans qui sont chez eux, qui regardent le match, en fait, d'avoir le flux vidéo sur leur ordinateur, de choisir la caméra sur laquelle ils regardent, et en même temps, eux-mêmes, d'être visibles, d'être affichés autour du terrain. On ne va pas pouvoir le faire en France avec un club, par exemple, parce qu'il y a une question de qui détient les droits TV du direct. Donc, il y a des obstacles comme celui-ci qui peuvent exister, qui font que on va pas pouvoir proposer une expérience aussi large à un public français, par exemple, qu'aux fans des Golden State Warriors en basket, mais la techno est la même. Et je vais aller plus loin, je vais développer ce que je suis en train de dire. Quand tu me demandes est-ce que c'est transposable, c'est pas transposable. La NBA, c'est une stat qui nous ont donné récemment, c'est qu'il n'y a que 1% des fans de NBA qui sont en mesure d'assister à un match. Soit pour des raisons géographiques, parce que, en fait, t'es fan des Celtics, mais tu habites en Espagne, pas de bol.
Soit tarifaire.
Soit pour des raisons tarifaires.
Et surtout. Ouais.
Voilà. Donc, qu'est-ce que tu fais? Mais cette remarque-là, en fait, elle s'applique aussi au Real Madrid, au PSG, au Bayern, à Manchester United, à plein de clubs. C'est qu'est-ce que tu fais pour atteindre, faire en sorte que ce public qui ne peut pas aller au stade, il ait malgré tout l'impression de participer à l'événement d'une manière ou d'une autre. Et la piste, le futur, c'est sans doute ça. Et on le voit déjà aux États-Unis, c'est que les équipes qui ont acheté ces solutions pendant la pandémie, elles vont continuer à l'utiliser même si maintenant les gens sont revenus dans les salles. Parce qu'ils se disent, on a envie soit de faire des cadeaux à des partenaires ou faire un cadeau, je sais pas moi, à un hôpital, il y a des gamins qui sont fans de telle équipe, on leur offre en fait un accès privilégié, soit encore une fois, de monétiser. C'est-à-dire, tu as des fans des Cowboys en Corée du Sud, tu leur vends un accès VIP à distance ou via un écran, ils vont pouvoir par exemple dialoguer avec les joueurs quand ils sont dans le couloir des vestiaires avant d'entrer sur le terrain pour s'échauffer. Donc c'est plein de petits trucs comme ça qui vont peu à peu sans doute moduler l'expérience et aussi faire en sorte que des gens qui sont pas au stade et à terme quelque part l'impression d'y être, ils soient rattachés à l'événement.
Mais franchement, ce qui est compliqué, c'est faire comprendre. Il faut qu'il y ait un changement de mentalité. Parce que vous êtes des experts de la fan expérience, c'est ça, là ? Tous. On a reçu Fabien Allègre, qui parlait de ça. Sauf qu'il y a un paradoxe, il y a une différence, il y a une distinction entre tout ce qui est market et sportif. Enfin, le secteur sportif, lui, n'y pense pas. En Europe, il est focus que sur le terrain. Il comprend pas tout ça. Ouais, donc, en fin de compte, et comme les supporters aussi, il pense terrain, résultat. Et il faut qu'il y ait vraiment un changement de mentalité. Moi, je crois modestement, c'est une piste, il faut changer la mentalité entre sport et divertissement. Faire comprendre que le football, on parle de football, puisse être pensé comme un divertissement. Pour qu'éventuellement les supporters comprennent tout le pataquès qui est mis en place pour gagner de l'argent. Okay, et que les joueurs aussi puissent faire, comme tu es en train de le dire, qu'il y ait une interaction éventuellement avec des fans qui sont à l'autre bout du monde, qui n'ont pas pu venir et qui sont accros au Paris Saint-Germain. Mais il faut qu'ils soient dans un mode. On le voit, les sportifs américains, bon, déjà, ils comprennent, ils jouent avec le supporter. Enfin, il y a quelque chose, parce qu'ils savent que c'est du divertissement, c'est de l'entertainment. En Europe, enfin, moi, quand j'étais joueur, c'était pas l'entertainment, c'était un sport, c'était un métier. Donc, en fin de compte, c'est juste changer de mentalité pour que tout le monde puisse comprendre qu'on fait du foot et le foot, c'est un divertissement. Je sais que je ne fais pas des potes là parce que l'excellent Maxime Marchand n'est pas d'accord, mais globalement, c'est ça. Et c'est pas parce que c'est un divertissement que tu perds l'essence, parce que divertissement, bah, il y a quand même un petit résultat à la fin. Tu veux prendre du kiff, tu veux prendre du plaisir.
Je pense que au-delà du fait d'être d'accord ou pas d'accord, le consensus sur lequel on peut arriver, c'est qu'aujourd'hui, pour les clubs qu'on mentionne, notamment les grands clubs de foot européens, il n'y a pas d'autre alternative que de faire du divertissement. C'est-à-dire que c'est nécessaire aujourd'hui à leur modèle économique, et pour être compétitif sur le terrain, ce qui va intéresser le core fan et l'ultra, il faut aujourd'hui se développer, trouver de nouvelles sources de revenus, et le divertissement, c'est ça.
Mathieu, excuse-moi, mais c'est super important à l'heure actuelle, parce que crise du Covid, les droits de télé ne sont pas là, et il faut vite comprendre que les droits de télé ne pourront pas augmenter s'il n'y a pas un truc sexy, si le produit n'est pas sexy.
Et c'est exactement ça. Et la difficulté, c'est de trouver l'équilibre. C'est comment tu respectes tes fans qui sont très attachés aux valeurs du club, au maillot, etc. Et comment tu proposes quand même quelque chose à ce que disait Mathieu. Ça fera sourire les étudiants d'Amos que j'ai l'habitude d'avoir, parce que je commence souvent mes cours avec cette slide de la première ligue qui dit que il n'y a que 0,8% de leurs fans qui sont dans les stades. C'est comment tu arrives à toucher les gens qui ne viennent qui ne viendront jamais au stade ou qui y viennent très peu et qui consiste en 99% de ton audience aujourd'hui. Et cet équilibre, il est très difficile à trouver. Mais du coup, une partie de la réponse, si on dit, c'est la tech. C'est comment tu mets à profit la tech pour les toucher, pour faire en sorte que ce soit pertinent et que l'image du club soit préservée.
Ouais, mais de toute façon, tout ceci, pour moi, n'est pas incompatible. Et moi, je suis loin d'être le promoteur d'un modèle où, comme lors des matchs de NBA, t'as du rap pendant le match. Dès que t'as un temps mort, t'as des gens qui rappellent avec un trampoline et qui font des dunks ou ce genre de choses. Bon, je veux pas qu'on aille aussi loin, mais je pense que
on a déjà de la musique, hein. Dans les stades, maintenant.
Pas pendant
un match.
Pas pendant, on en a à la mi-temps.
Ça commence. Hein.
Oui, absolument. Mais moi, je ne suis pas pour ça. Mais on en revient à ce qu'on évoquait tout à l'heure avec Edouard, hors antenne et à l'antenne, c'est qu'un stade, c'est plusieurs types de publics. Et on peut parfaitement garder un public ultra avec une politique tarifaire dans les virages qui soit raisonnable, on autorise des manifestations, enfin des expressions festives, le fait d'être debout pendant le match, le fait d'agiter des drapeaux, ça fait partie de l'identité footballistique et il faut le garder.
Trouver des solutions pour les fumées.
Sur la pyrotechnie, exactement, c'est de trouver quelque chose qui concilie la fête et la sécurité.
Les fumis froids, par exemple.
Les fumis froids, il y a des réflexions là-dessus, et c'est très très bien, et tout ça, il faut le garder, il faut le pérenniser, mais à côté de ça, il y a des familles, il y a des clients corporate, alors ça plaît pas, oui, il y a des partenaires qui achètent des loges, mais les clubs vivent aussi en grande partie de ça. Le but, en fait, c'est de faire plaisir à tout le monde.
Alternative football.
Mais alors pour faire reprendre des éléments de ce qu'on a dit depuis le début et pas faire un mix mais nous amener sur une autre piste de réflexion, on a parlé de sécurité beaucoup au départ, on a parlé de tech au service de la fan expérience. Il y a forcément une question que j'ai envie de te poser, la tech au service de la sécurité, ça donne quoi dans les stades, c'est quoi le futur, c'est-à-dire comment tous ceux dont on a parlé qui doivent cohabiter, l'ultra qui vient, qui est nécessaire et qui a le droit d'avoir son expérience au même titre que la famille qui vient, qui a le droit d'avoir son expérience, comment la tech va m'aider à les faire cohabiter de manière safe, pardon pour l'anglicisme,
mais harmonieuse.
Harmonieuse, merci. Voilà.
Bon, bah, ça tombe bien parce que c'est une recherche que je suis en train de mener sur la question justement des technologies de surveillance dans les stades, de leur déploiement. Bon, il y a deux extrêmes en quelque sorte. Tu questionnes les ultras sur ce sujet, ils disent nous, on est déjà surfliqués, hyper surveillés, et on veut pas de dispositifs supplémentaires parce que ceux qui existent sont déjà contraignants. Et quelque part, c'est vrai que si je prends ma modeste expérience et mon modeste parcours de vie, mon premier match au Parc des Princes, c'est en 1987. À cette époque-là, tu peux acheter ton billet directement au guichet, on te demande aucune pièce d'identité, rien. Le guichetier dit à mon père, bon, ça va, le gamin, pas besoin de lui acheter une place, il rentre, il s'assoit, vous asseyez aussi où vous voulez, s'il y a trop de monde, vous le prenez sur vos genoux. Voilà, et tu n'as...
C'est beau.
Mais c'était formidable. Mais c'est plus possible.
Parce que c'est notre époque.
Et aujourd'hui, on est passé à un système où tu es obligé d'acheter ta place à l'avance avec généralement une vérification d'identité. Enfin, il y a des pays qui ont instauré même, je reprends le cas de la Pologne, hein, tu es obligé de donner ton numéro d'identité pour national, hein, pour en fait pouvoir acheter une place. Ouais, c'est la loi anti-louganisme qui veut ça. Et au parc, t'as un système de portique automatique où tu scannes ta place et tu ne peux physiquement pas entrer, tu peux pas forcer le passage parce que de toute façon c'est un portique métallique. Et donc la position des supporters historiques, des ultras, tout ça, c'est de dire les stades se sont de plus en plus bunkerisés. Et c'est l'enfer. À l'autre bout du spectre, tu vas avoir des gens de la police qui disent nous on veut de la reco faciale, comme ça ça nous permet de en quelque
reconnaissance
sorte
faciale.
De la reconnaissance faciale parce que ça nous permet de dire tel mec il est interdit de stade ou tel mec il est fiché S donc il peut pas entrer. On veut des caméras intelligentes, on veut de la biométrie parce qu'en fait tout ceci ça va nous permettre d'identifier les gens, de voir si des personnes qui ne sont pas censées être là sont là, de contrôler des flux à distance et de ce fait aussi d'économiser ou de mieux utiliser les effectifs physiques, humains sur le terrain. Entre les deux, tu as en fait les gens...
Ça se défend, tout se défend en compte.
Tout se défend et tout a des arguments. Ouais. Et puis en ce moment, il y a le débat sur l'utilisation du drone. Voilà. Et les responsables policiers disent mais on comprend pas pourquoi la CNIL, le Conseil d'État, enfin en gros toutes les autorités de régulation ou les autorités, enfin comment dire, la justice administrative sont si frileuses. En fait, c'est juste une caméra volante. Le seul risque, alors, c'est qu'elle tombe sur les gens, mais globalement, on utilise du matos fiable. Donc, nous, c'est juste pour voir les flux, il n'y a pas de problème. Bon. Entre les deux, il y a les organisateurs d'événements, donc les ligues, les clubs. Et là, quand je dis ça, c'est vraiment du vécu. C'est des gens avec qui je me suis entretenu au cours du mois et demi écoulé. Parce qu'encore une fois, c'est vraiment un sujet sur lequel je travaille beaucoup en ce moment. Et eux disent... Oui, on veut de la sécurité. Oui, c'est vrai que la vidéo, par exemple, ça nous a beaucoup apporté. Je discutais avec un directeur de sécurité d'un club que je citerai pas, mais qui a connu une évolution, une grosse modernisation de son infrastructure sportive. Voilà, on va dire ça comme ça. Il me disait, j'avais quasiment pas de caméra dans l'ancienne infrastructure. Dans la nouvelle, j'en ai 200 et quelques, ce qui fait que je peux tout couvrir et je peux vraiment efficacement placer mes stadiers et faire en sorte que qu'on puisse repérer tout événement.
On a parlé tout à l'heure des événements de la commanderie et de la gestion du KRO de manière globale. Là, on n'est pas dans le stade, on est à la commanderie. Mais pareil, ton regard, toi, sur la manière dont c'est géré, sur les choses qui auraient pu être mises en place, c'est laquelle ?
Bon, si on part du principe qu'il y a une crise entre des groupes de supporters et une direction. C'est-à-dire, tu peux revenir des années en arrière et dire, bah, fallait pas nommer héros, et Steve McCourt aurait dû mettre un gars plus en accord avec le contexte marseillais. Bon, là, c'est totalement de la politique fiction et ça n'a pas de sens. Si tu pars de ce principe-là, t'as une crise, en fait, entre une direction et des ultras, bah, qu'est-ce que tu peux faire pour prévenir les choses? Bah, déjà, je pense que le dispositif policier, il était quand même très, 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 très léger aux abords de la commanderie et qu'on n'a pas anticipé suffisamment ce rassemblement. Alors moi, j'ai pas donné de leçons aux autorités policières, à la préfecture, je suis pas à leur place. C'est toujours facile, en fait, encore une fois, de faire la leçon après les événements. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu as le moyen, tu as quand même une prise de température qui est possible, tu as des mots d'ordre qui circulent. C'est pareil pour les rixes entre bandes, hein, pour prendre un autre sujet, c'est que souvent c'est des embrouilles qui commencent sur Facebook, des ultras qui disent rendez-vous devant la commanderie parce que pour protester contre la direction. Tu vois que le truc qui devient viral sur Facebook, Twitter, Insta, tu te dis tiens, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer, donc il faut mettre des effectifs en préventif. Or là, ce qui s'est passé, quand on voit les images, c'est que le service d'ordre, il a été complètement dépassé. C'est-à-dire que encore une fois, on en revient à ce duo, la voie publique, c'est la police. Bon, qui n'était pas au rendez-vous. L'intérieur du site, ben, c'est le service de sécurité de l'Olympique de Marseille. Où là aussi, ces agents de sécurité ont fait ce qu'ils ont pu pour contenir cette invasion, mais ils étaient quelques-uns face à.
Mais à la décharge des dirigeants, et voilà, c'est que à Marseille, j'ai pas le souvenir d'avoir que les supporters aient envahi la commanderie auparavant. Je crois que c'était une première. C'était comment dirais-je? Ils marquaient leur opposition et leur agacement totalement différemment. C'est la première fois qu'ils ont fait ça. C'est-à-dire que, bon, moi, j'ai pas vécu ça, mais tout ce que les anciens joueurs m'ont expliqué, c'est-à-dire que, bah oui, à la commanderie, parfois, quand ils étaient pas contents, bah, ils arrêtaient les voitures et ils te le faisaient savoir. Ou alors, ils te le faisaient savoir avec des noms d'oiseaux ou quoi que ce soit, mais jamais aussi, de manière aussi, aussi violente.
Ouais. Il n'y a pas de jet de danette sur les véhicules des joueurs, Edouard.
C'était quoi, cette danette? C'était Marseille, ça?
Non, c'était de 2000-2001, Paris, sur Anelka qui faisait la pub, danette.
Non, mais ce que je veux dire...
J'ai raté ma blague, c'est pas grave.
Non, mais je connais pas tous les trucs comme ça.
Mais tu y étais, non?
Oui, mais bon, moi, j'ai pas reçu de danette.
T'es arrivé en retard à l'entraînement.
Ouais, je sais pas.
On a parlé du PSG et de sa gestion, on a parlé de Marseille et de sa gestion. À quel point les directions sont au fait de l'ensemble de ces questions? La question des ultras et de la maîtrise, c'est très vu dans le football, etc. Mais la question de la nécessité de transformer le stade, la question de l'utilisation de la tech, notamment pour des questions de sécurité, est-ce que tout le monde est à peu près au même niveau aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un partage de connaissances? Ou est-ce que toi, dans tes discussions, tu vois que tu as des clubs qui sont hyper avancés parce que des dirigeants sont très avancés?
J'ai pas une visibilité sur la totalité des clubs français, évidemment, et je pourrais pas répondre de manière complètement exhaustive à cette question. Il y a globalement une conscience de la chose. Il y a globalement, avec les clubs avec lesquels j'ai pu discuter, quel que soit le contexte, hein, que ce soit le contexte recherche ou que ce soit le contexte fan expérience, il y a quand même un intérêt à minima naissant, voire très avancé pour ce qui commence à se faire ailleurs, pour ce qui se fait ailleurs. Il y a des projets quand même de modernisation et de rénovation ou de construction de stades ici et là. Bon, c'est pas du tout un secret. La Méno est en train d'être, il y a un projet de rénovation de la Méno. Il y a quand même beaucoup de nouveaux stades qui ont été ouverts en France ces dernières années. Hein, je veux dire Lille, Bordeaux, Nice. Il y a des projets avortés comme à Nantes. Bon, avec la contestation encore une fois qu'on connaît à l'égard de la direction. Il y a globalement une conscience de ça. En revanche, là où il y a peut-être encore un frein, et en aucune façon je ne donne des leçons parce que je comprends complètement les impératifs, c'est que pour le moment, c'est vu plus comme un coût que comme un investissement. C'est qu'on se dit, si je dépense tant pour une animation, pour améliorer le confort des spectateurs, c'est tant d'argent de moins que j'ai à investir sur le marché des transferts ou pour offrir un salaire à tel joueur qui, pour le moment, ne veut pas prolonger. Et c'est, on rejoint ce que tu disais tout à l'heure, Edouard, c'est que le sportif n'a pas conscience de ça, mais ça va plus loin que ça. C'est que le sportif est aujourd'hui ce qui phagocyte la majeure partie du budget, et ce qui, encore une fois, est complètement normal. Mais dans d'autres pays, encore une fois, les États-Unis, évidemment, c'est le cas le plus extrême, mais bon, dans les clubs anglais, c'est un peu pareil. C'est que les budgets pour justement les fans, l'expérience, le confort, c'est sanctuarisé. C'est quelque chose en fait qui est considéré comme
une priorité,
comme priorité, et un investissement qui va finir par payer et enclencher en fait un cercle vertueux. Voilà.
Et bah, je trouve que c'est une belle conclusion à tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui.
C'est clair.
Édouard est dépité.
Non, carrément pas. Non, mais c'est très bien. C'est une situation. Tu as fait une très bonne situation. Enfin, un constat de une situation à l'instant T. Et moi, je suis positif pour la suite. Je suis relativement optimiste.
Eh bien, c'est un message d'optimisme. Donc, pour cette fin de première saison d'Alternative Football. Mathieu, merci beaucoup.
Ah bah, c'est
merci,
Mathieu. Très grand plaisir
de nous avoir éclairé. C'était très intéressant.
Donc, on se retrouve à la rentrée.
Bronzé. Reposé. On va faire en sorte d'être dans les meilleures dispositions pour utiliser une formulation de footballeur.
En tout cas, on te le souhaite.
En tout cas, on te le souhaite. Merci à tous.
Allez, super. Merci à tous. À très vite. Bonnes vacances.
Alternative Football. Alternative Football.
Beaucoup en parlent.
On parlera de l'effectif, de la gestion de l'effectif.
Crois-moi, ils jouent les deux contre les gars.
Mais peu le connaissent vraiment.
Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
Alternative Football.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
There's lots of ways to measure success.
Sometimes a company has to bet against itself.
We wanted to set ourselves apart by having a point of view.
Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.